La première, podcast. Première de couverture.
Eddie Kackelbergs.
Nous recevons un invité exceptionnel pour la parution d'un livre, Le Peuple des Lumières. L'un de ses co-auteurs de ce texte est avec nous, Abdelaziz Alhamza, pseudonyme syrien. Il a une des expériences les plus dramatiques comme jeune, celle d'avoir à la fois vécu la déliquescence de son pays, d'avoir vécu les troubles d'un régime qui vacille, la répression, mais aussi Daesh. Et puis aujourd'hui, notamment depuis l'Allemagne où il vit, il émet encore énormément, quotidiennement, les renseignements qu'il reçoit de ses réseaux et de sa famille, de ses proches qui sont là-bas. C'est un témoin direct de ce qui nous préoccupe, mais aussi de ces réfugiés qui nous arrivent, qui est avec nous ce soir, grâce à l'aide aussi d'une interprète que nous remercions et qui est à nos côtés en studio. Bonsoir Abdelaziz Alhamza, on va convenir de vous appeler comme ça parce que pour d'évidentes raisons de sécurité, il faut que vous puissiez garder une vie la plus sereine possible sous pseudonyme. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie tout d'abord de participer à ce collectif autour de ce livre, parlons d'abord de ce livre, Ce Peuple des Lumières ?
أول شيء بونسوار للجميع المستمعين الكتاب كان
Bonsoir à tous, ce livre c'était sa première expérience en une écriture aussi longue. D'habitude il écrit de courts articles. C'est sa souffrance personnelle, la souffrance des civils à Raqqa, la souffrance des enfants qui était le motif principal pour aider à écrire ce livre. Il voulait montrer aux gens qui ne savent pas ce qui se passe, montrer ce qui se passe là-bas, la souffrance et l'injustice sur place.
تغيير الوضع الراهن ممكن توعية الناس على المشاكل على الانتهاكات اللي تصير بالمدينة فكان هذا أحد أهم الأهداف اللي دفعني أكتب هالكتاب.
Vous avez, Abdelaziz, connu les souffrances vous-même du régime, arrêté, torturé. Vous avez connu une armée syrienne libre mais qui s'est effondrée. Vous avez, dans cette même ville de Raqqa, vu l'arrivée de Daesh. Est-ce qu'il y a une des trois périodes qui est encore pire que toutes les autres ?
تمام هي بشكل عام أصعب فترة هي كانت فترة سيطرة تنظيم داعش بشكل كامل على مدينة الرقة.
La période la plus dure parmi ces trois était celle l'arrivée de Daesh à Raqqa et leur prise de la ville. Sous le régime, même s'il a été emprisonné et torturé, mais ils étaient emprisonnés une semaine, deux semaines, ensuite relâchés, alors qu'avec Daesh, ce n'est pas le cas.
بعدين يطلع من المعتقل فكان هناك سجن مؤقت. بعد سيطرة الجيش الحر كانت أفضل المراحل اللي عدت علي بحياتي أيامها حسينا معنى الحرية.
La période la plus sereine était celle où l'armée libre syrienne a pris les choses en main. Ils ont eu le sens de la vraie liberté malgré les bombardements du régime. La période la plus dure c'était celle de Daesh et la transformation de la ville en noir, tout est en noir. Ils ont dû partir. Lui et ses amis n'avaient plus de place à Raqqa. Ils devaient partir. Ceux qui souffrent le plus sont les civils sur place. Qui ont Daesh à terre et dans les cieux, il y a les bombardements de la coalition, du régime, de la Russie actuellement. Donc ceux qui souffrent le plus sont les civils restés sur place.
طيران من جميع أنحاء العالم يخصف المدينة فحاليا معاناة المدنيين من جميع الأطراف والخاسر الوحيد هم المدنيين.
Est-ce que dans cette noirceur générale, il reste de la place pour de la lumière ? Je sais que son réseau de jeunes qu'il anime est régulièrement repris par la presse internationale. C'est une source d'information sur ce qui se passe, mais c'est une information très noire. Est-ce qu'il reste un espoir ?
تماماً. احنا يوم أطلقنا منظمتنا الرقة تذبح بصمت كان هتفنا إشعال شمعة بوسط الظلام.
Quand ils ont créé cette organisation, Raqqa se fait massacrer en silence. Ils ont voulu allumer une bougie dans cette noirceur en espérant que la lumière de cette bougie change les choses. Peut-être que ça changera la situation et donner de l'espoir aux gens qui s'y trouvent. Ils combattront jusqu'au bout le régime Daesh ainsi que toute organisation qui viole les droits de l'homme. Ils sont contre cette violation. Ils ont perdu des amis, de la famille. pour en arriver là où ils sont maintenant. Leur voix arrive au monde et ils comptent continuer à se battre pour donner de l'espoir.
فما راح نتوقف عند هذا الحد المعين احنا وصلنا لمرحلة العالمية صار صوتنا واصل كل العالم لعل وعسى هذا الصوت ممكن يأثر نوعا ما ممكن يكون سبب في حصول تغيير ما او في يوم ما في مدينة الرقة.
Aujourd'hui, les jeunes autour de lui et lui-même, à qui en veulent-ils le plus ? Au régime qui a pu créer cette Syrie qui agonise, à une armée syrienne libre qui n'a pas réussi à maintenir le goût de la liberté, à Daesh qui fait revenir la barbarie, ou à une coalition qui est un peu cynique et qui tire par le ciel ?
تمام هو الأكثر حقا طبعا على النظام السوري لأن النظام السوري هو الأعطى البيئة الحاضنة أو هو كان المسبب من شو كل هاي التنظيمات.
Ceux à qui il envoie le plus, c'est éventuellement le régime syrien et Bachar al-Assad. C'est la cause principale de ce qui se passe là-bas, de toutes ces organisations qui sont nées en Syrie. Et ils en veulent aussi aux promesses mensongères des grands pays occidentaux de mettre une ligne rouge pour les armes chimiques, des barils explosifs qui sont normalement interdits en cas de guerre. Ils n'ont pas pris des mesures efficaces pour retirer Bachar al-Assad du pouvoir. S'ils devraient donner une contribution, ne serait-ce que matérielle, les armes médicales pour l'armée libre syrienne afin qu'ils puissent combattre les organisations kurdes d'un côté, Daesh ainsi que le régime. Mais ils en veulent le plus au régime. Si Daesh a tué une personne ou dix, en contrepartie, le régime en a tué 1000. Pour le moment, les civils tués par le régime sont dans les millions, les migrants sont dans les millions. Donc s'ils en veulent à quelqu'un, et c'est la cause principale, ce serait le régime.
إذا تنظيم داعش قتل شخص أو 10 أشخاص بالمقابل النظام السوري قتل آلاف الأشخاص هذا السوريين الذين قتلوا وقضوا على يد النظام السوري أصبحوا بالملايين المهجرين بالملايين النازحين بالملايين فالسبب الرئيسي والعامل الرئيسي انتشار هذه الأمراض وتفرعها هو النظام السوري.
Comment avez-vous, Abdelaziz Salamza, été reçu lorsque vous et les jeunes qui vous accompagnaient avez dû décider de migrer, de partir ? C'est une question que se posent des milliers de gens qui arrivent chez nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été accueilli ou d'avoir fait face à notre peur à nous ?
Ça dépend des pays, bien évidemment, ça dépend des personnes et des points de vue qu'ils ont forgés vis-à-vis des Syriens. Beaucoup de personnes pensent que comme Raqqa n'est pas sous l'emprise du régime, mais maintenant elle est sous l'emprise de Daesh, que tous ceux qui viennent de Raqqa sont des terroristes, que les Syriens sont des criminels. Eux, ils essayent de montrer que ce n'est pas le cas, qu'il y a des civils qui essayent de se battre contre cette répression.
أهالي رقة وأهالي دير الزور أو المدنيين هم إرهابيين. هناك في شعب مدني في مقاومة شعبية في صوت.
Les pays arabes ont fermé, les pays arabes musulmans ont fermé leurs portes aux Syriens, alors que l'Europe ont ouvert en quelque sorte leurs portes. Mais aussi, ça dépend des pays et comment ils accueillent les réfugiés. Il y a des nazis, il y a des organisations d'extrême droite, mais ça dépend de pays en pays.
سكرت أبواب هبوج السوريين بالوقت اللي فتحت في أوروبا أبوابها للاجئين السوريين. بنفس الوقت بأوروبا في معاملات سيئة بعض الدول في النازيين الموجودين الحركات اليمينية المتعصبة فهاي ترجع للشخص ترجع للمجموعات وتختلف من بلد لبلد من عرق العرق من جنس الآخر.
Il fut un grand moment dans l'histoire où Damas et Bagdad étaient des immenses centres de culture qui ont contribué immensément à l'histoire, à la culture, à l'art dans le monde. Aujourd'hui, on regarde Bagdad et Damas avec peur en se disant que ce sont des lieux de désolation et d'inculture. Comment est-ce que la population a conscience de ça et comment vit-elle ce changement de regard du monde sur ces pays et ces zones de culture ?
بشكل عام منطقة سوريا أو العراق بلاد الشام بلاد الرافدين قديما كانت مشهورة تاريخيا سياحيا حضاريا
Comme vous avez dit, la Syrie et l'Irak étaient connus mondialement pour leur culture, leur côté historique, leur côté touristique. Mais malheureusement, depuis la nuit des temps, leur position géographique était une cible pour plusieurs pays, pour leurs intérêts. Et surtout quand il s'agit des lignes de gaz qui vont vers l'Europe ou qui vont vers le Sud, et que ce soit pour les intérêts de la Russie, les intérêts des pays arabes du Golfe. Et les seuls qui en souffrent le plus, ce sont les civils. Toute l'archéologie, tous les postes touristiques, tous les temples, tout ça a été détruit. Il n'en reste plus grand-chose de la culture qui existait depuis des siècles et des siècles. Tout ça pour l'intérêt, les intérêts de quelques pays.
حضاريا دمرت البلاد كآثار الدمارات سرقت النفط الموارد الطبيعية تم إنهاء البلدين وتم تحويلها من أجمل بقاع العالم إلى أكثر المناطق تطرف وإرهاب.
Il reste une chose à se demander, est-ce que demain la jeunesse, lui-même Abdelaziz Salamza, ses amis vont pouvoir à un moment ou à un autre reprendre une vie normale, ou est-ce qu'on doit considérer que c'est une génération qui aura à ce point souffert qu'elle va survivre dans la haine.
Leur organisation Rakas fait massacrer en silence. Leur vie des journalistes diffère de celle des autres. Ils sont au courant de tout. Ils sont en contact avec ce qui se passe là-bas, la vue du sang, les exécutions. Pour eux, c'est devenu une vue normale. Ça leur semble tout à fait normal de voir ça. Ils ont perdu un membre, un de leurs journalistes qui a été exécuté publiquement, et un père d'un journaliste dont ils étaient au courant qu'il était avec eux dans l'organisation. Il a été aussi exécuté publiquement. La mort est devenue une routine pour eux. Donc peut-être que ça aura des conséquences sur leur vie après des années, mais pour le moment, c'est une organisation solide qui, pour eux, la souffrance est devenue quelque chose de tout à fait normal.
بس بشكل عام احنا اصبحنا عبارة عن كتلة جامدة كتلة صلبة مجردة من الاحاسيس نوعا ما.
Alors en lui souhaitant de notre part, à lui et aux siens, si vous le voulez bien, avec votre aide, la lumière qu'il nous a transmise par ce texte ici dans ce recueil, en souhaitant que cette lumière puisse aussi être retransmise sur place et que nous puissions nous retrouver un jour dans ce studio pour parler de l'après et d'une lumière qui régnera vraiment, je vous demande de le remercier de notre part.
قلب بتمنى لك إلك ولرفقتك كل خير وبيتمنى إنه شي نهار نرجع نجع هالستوديو ونحكي عن السلام هونيك وكيف شو صار بعد كل هالمشاكل وإنه بيشكرك إنك جيت لعنده.
تمام، شكرا لكم للاستضافة الجميلة وأنا أنصح بمتابعة الكتاب عالم الأضواء.
Il vous remercie pour cette interview. Il conseille aux jeunes et à tout le monde de lire ce livre où il y a sa vie à lui, l'organisation. Et c'était un honneur pour lui de pouvoir être cité parmi les écrivains qui se trouvent dans ce livre en espérant que leur message arrive aux autres pays qui sont aussi en guerre. Et vous remercie encore.
Et en le remerciant, on rappelle donc à celles et ceux qui nous ont écoutés, vous allez vous emparer de ce livre et le faire lire aussi autour de vous, Le Peuple des Lumières. C'est un collectif parmi lequel vous retrouverez Abdelaziz Salamza, c'est signé chez Caire Édition. Merci, choukla.
Enfin.
إلى دينه داني وقد صار قلبي قابلا كل صورة لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى للغزلان وهدير لرهبان وبيت لأوسان وكعبة طائف وبيت للأوثان وكعبة طائفين وألواح توراة ومصحاف قرآن.
Dernière de couverture.
Et en dernière de couverture ce dimanche, nous retrouvons notre compatriote Richard Ruben. Il était venu, vous en souviendrez, avant les vacances, nous parler d'un rendez-vous one-man show. Et il nous avait déjà un peu annoncé la couleur, à savoir qu'il allait créer l'été dernier, c'est fait, une pièce qui lui tenait particulièrement à cœur, Brooklyn Boy. Alors Brooklyn Boy, Richard Ruben, Armand Delcamp, mise en scène d'ailleurs d'Armand Delcamp, qui se tient maintenant aussi au Jean Villard à Louvain-la-Neuve. Et Richard Ruben est de retour avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Pour nous parler de ce Brooklyn Boy. Alors Brooklyn Boy, on est dans une Amérique à deux visages, celle communautaire, puisqu'on commence les scènes dans une communauté juive attachée à ses racines autour de Brooklyn. Et vous, en l'occurrence, success story, écrivain à succès qui a échappé quelque peu à cette communauté, à ce destin.
C'est ça, qui a voulu couper ses racines. Mais au fond, on en fait tout un drame, mais c'est un peu le lot de beaucoup de gens, d'un moment se dire, c'est pas parce qu'on est contre qu'on a, on a simplement pas envie d'être... C'est une manière de couper le cordon, tout simplement. Alors si en plus on est athée, comme le personnage, et c'est extraordinaire parce que la religion juive est une des rares religions où souvent les gens font des actes alors qu'ils n'y croient pas forcément, juste par envie de retrouver des racines. Tout le cérémonial, tout le sacré est souvent confondu avec les us et coutumes. Et donc ce personnage se retrouve sur le lit de mort de son père, puisqu'il est dans la chambre d'hôpital et on pense qu'il va mourir dans quelques heures ou quelques jours. Et c'est un petit peu un auteur qui, à 45 ans, arrive enfin à se réaliser. Il a son premier succès dans les meilleures ventes de livres aux États-Unis. Il vient simplement demander l'aval de son père, qui ne l'a jamais reconnu. Mais c'est ça qui est très drôle, c'est parce que ça a l'air dramatique comme ça, mais il y a tous les non-dits des familles. Sa mère est morte quand il était tout petit et c'était le chouchou. Et le père, qui n'est pas du tout intellectuel, qui vend des chaussures, c'est vraiment l'ashkénaz américain, mais qui n'a rien de littéraire. Ce père a toujours un peu renié son fils, un peu par complexe. Et là, c'est la grande explication. Évidemment, avec un dénouement assez inattendu, que vous verrez que si vous venez. Et alors, ça commence d'une manière assez dramatique, mais on rit très vite, parce que c'est, moi, je dis toujours, l'avantage de cette pièce, c'est que c'est une pièce sérieuse où on rit aussi.
La rencontre avec ses racines, c'est retrouver aussi des amis, c'est retrouver les frustrations. Celui qui a réussi, vous en l'occurrence, mais qui a envie de surtout réussir dans les yeux de son père, de retrouver une part de lui-même qu'il n'a pas réussi à faire éclater. Et puis il y a l'ami d'enfance, ou celui qui se présente comme tel, qui lui n'a jamais réussi à sortir et qui se projette dans le livre.
Oui, le problème c'est qu'il en prend plein la gueule alors qu'il n'a pas encore profité du succès. Ça arrive, là c'est la première semaine où il est dans les 10 premiers, il fait la couverture du Times Magazine. Et donc il a que les désavantages, il a cet ami d'enfance qui lui tombe dessus, qui lui est un peu frustré, aurait voulu faire des études et finalement a repris le magasin de son père. C'est un peu ce qu'il aurait pu devenir s'il était resté, c'est un peu le mauvais miroir de ce qu'il n'est pas. Et puis il a sa femme qui le balance, il va à Hollywood, on lui balance son film à la tronche. Donc ce type, pendant 4 jours, s'en prend plein la gueule. Et donc cette espèce de descente aux enfers d'un success story. C'est ça qui est drôle, c'est qu'en même temps, c'est une comédie en 6 actes assez inattendue parce que ça s'enfile un peu comme un film. C'est une écriture assez originale, c'est qu'on n'est ni dans le café-théâtre, ni dans le vaudeville. On est dans une espèce de road movie, mais à l'intérieur, où les scènes se succèdent avec un mécanisme assez original où je traverse même les murs. Donc je ne disparais quasi pas de la scène pendant 2 heures, mais j'écoute surtout les autres. C'est intéressant parce que les autres me tombent dessus. Donc moi, j'écoute, je prends. Et je dois dire que c'est un plaisir de jouer cette pièce parce que, comme disait Armand Delcamp, il y a des coups de théâtre. On apprend des choses que les personnages ne connaissent pas sur la situation. Donc on apprend des choses toutes les minutes qui sont très utiles à la scène suivante. Donc c'est une sorte de thriller lent en fait. C'est magnifiquement bien écrit. On est entre Il y en a qui disent Woody Allen, mais non, parce que Woody Allen, les pièces de Woody Allen n'étaient pas forcément réussies, c'est plus ses films. Enfin, on est dans un univers entre Woody Allen, les frères Cohen, pour le côté un petit peu très dur, le côté ironique, et un livre de Philip Roth. Vous voyez, c'est cet humour américain.
Moi, j'ai eu la chance de découvrir, hein, c'était votre vraie première à l'ouverture du Festival de théâtre de Spa cet été. Ici, vous prolongez, vous avez déjà, non seulement ces dates au Villard, vous en avez partout ailleurs. Hein. J'ai vu que vous aviez déjà poussé le spectacle plus loin. C'est pas évident pour vous? C'est une première de passer de l'humoriste seul en scène en performance, comme je vous avais vu et que vous étiez venu nous en parler là, bien avant les vacances au Centre culturel d'Auderghem, où là vous tenez la salle en émoi rigolo pendant 2 heures, et ici vous êtes dans un tout autre registre retenu.
Oui, c'est un exercice magnifique parce que quelque part ça a un rapport, parce que moi ça fait quand même 25 ans que je fais ce métier. Avant je le faisais déjà, mais pas en professionnel, j'étais étudiant. Ça fait 25 ans que je vis de ce métier. Et ça fait 20 ans que je travaille avec des metteurs en scène. Donc ces gens m'ont préparé à rencontrer des gens comme Armand Delcamp. J'aurais jamais pu, même il y a encore 5 ans, le faire. Parce que petit à petit, le béaba est rentré. Mais moi, je dis toujours, on apprend tous les jours. Ce serait très présomptueux de dire je connais. Donc Armand, on a travaillé 7-8 heures par jour. C'est quelqu'un de magnifique parce qu'il transmet sa connaissance. Il transmet, même à travers maman, des anecdotes. Il transmet tout son savoir. C'est rare de rencontrer des gens qui vous donnent tout. Donc à partir du moment où il vous donne tout, en disant il faut économiser les gestes, il faut faire ceci, recommence, etc., je crois que je serais très, très ridicule de me plaindre. J'ai passé un mois de mai-juin magnifique pendant 6 semaines, alors qu'il faisait très beau dehors, à travailler avec lui et 5 autres comédiens remarquables. On apprend encore. Donc c'est vrai que ça ressemble et en même temps, ce n'est pas la même chose. On apprend surtout à jouer avec les autres et surtout recevoir des informations et ne pas simplement jouer sa partition tout seul.
Comment ça vous êtes tombé dessus, Richard Rubens, ce Brooklyn Boy?
J'ai vu la pièce il y a 10 ans à Paris, jouée par Stephen Fraise. J'avais été très touché parce qu'à l'époque, c'était moins d'actualité, mais il y a toute une partie de la pièce, on en parle peu finalement, sur l'antisémitisme, où on parle de tous les poncifs de l'antisémitisme, notamment la scène à Hollywood, où il y a un jeune acteur hollywoodien écervelé qui veut absolument ressembler au personnage principal du livre dans l'adaptation et dit « je vous observerai ». Et il commence à parler de tous les... Puisqu'il y a une allusion à la Shoah, il veut carrément se démuscler, perdre ses muscles pour ressembler à un personnage de la Shoah. Et les gens rient là-dessus, c'est énorme. On passe du rire aux larmes dans cette pièce. On arrive même à rire de la Shoah. Comme quoi, quand c'est prévenant et bien écrit, ça passe toujours quand il n'y a pas de règlement de compte. Là, c'est plus une manière de dénoncer la bêtise humaine. C'est magnifique d'être dans ce genre de registre. Donc je crois que ça m'avait touché. Puis le personnage m'avait touché parce que, quelque part, il me ressemble un peu. Il est en même temps pas toujours sûr de lui, et en même temps, comme tous les artistes, il aime bien qu'on lui dise qu'on l'aime bien. Donc cette espèce de mélange entre le glamour et l'humilité, on est tous plus ou moins comme ça. Voilà, j'avais été touché aussi par cet esprit, moi j'aime beaucoup l'esprit américain, c'est le même esprit qu'on trouve dans le dernier film avec Ben Stiller, qui est dans un contre-registre, Where We Young, qui est un film que j'ai trouvé magnifique. On est un peu dans cet esprit-là. J'ai vu des pièces aussi avec Patrick Chenet à Paris, de Murray Schigel, qui était dans le même genre, Love, notamment. C'est un esprit plein d'autodérision, plein d'humanité. Et ça pourrait être dans n'importe quelle communauté. Là, c'est la communauté juive, ça pourrait être des Italiens, ça pourrait être des Wallons, ça pourrait être des Irlandais. Vous savez, c'est universel. Hein, quand le fils demande à son père s'il a pensé à maman et qu'il change de sujet parce qu'il va mourir et qu'il sent qu'il n'a peut-être pas été comme il aurait dû être. On s'y retrouve, les non-dits avec les parents. On voudrait revenir en arrière, rattraper le temps qui passe. Quand sa femme lui dit qu'elle s'est sacrifiée pour sa carrière et qu'elle n'a pas eu d'enfant, qu'ils ont essayé, et que lui est prêt à adopter. Il y a des sujets très lourds, très profonds, mais traités avec légèreté. Profondeur, mais dans la forme légèreté. Les mots ne sont pas appuyés. La force de Margulis, c'est d'avoir un vocabulaire très simple, mais avec un sens très très profond. Et pour ça, les Américains sont très forts, parce que leurs comédiens sont redoutables, parce qu'eux, ils manient ce verbe simple, qui est plus difficile à manier qu'un verbe compliqué, je pense.
Alors, pour vous imprégner encore mieux de cela, rendez-vous au Théâtre Jean Villard à Louvain-la-Neuve pour aller découvrir ce Brooklyn Boy et puis d'autres dates encore. Hein.
On a fait Spa, on fait Louvain-la-Neuve quand même pendant 18 dates, puis on fait le Centre culturel d'Uccle, voilà. Ça nous fera 22 dates. Et apparemment, on va faire plus de 11 000 personnes, d'après ce que j'ai compris. Ça se remplit bien. Donc, je suis ravi. Et puis, je tiens à dire que je suis épaulé, mais pas par n'importe qui, par des gens magnifiques. Freddy Six, qui joue l'ami d'enfance, est époustouflant. Deborah Hamsens, qui joue la jeune ingénue, avec qui je passe la nuit et qui me refait ma garde-robe. Il y a Julien Lemonnier, qui joue la jeune vedette hollywoodienne. Rosa Lacuevas, dans un numéro de folie où fait la productrice hollywoodienne. Armand Delcambre, n'en parlons pas, dans le rôle du père, qui est assez touchant aussi. Catherine Connet, qui joue mon épouse. Dites-moi si j'ai oublié quelqu'un. Je ne pense pas. Enfin, une distribution vraiment de gens. On est entouré, c'est-à-dire j'ai le rôle titre, mais il n'y a pas de vedette dans cette pièce. Nous sommes 7 vedettes.
Brooklyn Boy, vous ne ratez pas. En plus, un décor splendide.
Splendide décor.
Étonnant, vous verrez.
Lionel Le Cire qui a fait un décor, j'avoue, je n'avais jamais vu ça sur scène.
Je confirme. Allez, Brooklyn Boy, vous vous précipitez. C'est encore à l'affiche, vous n'hésitez pas. Merci d'avoir été des nôtres.
Merci beaucoup.
La première et la 3 présentent.
Allez, dis-moi, comment c'est ?
Comment c'est quoi ?
D'être un romancier reconnu.
Oh, ça n'a rien de particulièrement excitant.
Hein ? Mais te voilà en plein succès avec Brooklyn Boy, un best-seller de l'année.
Brooklyn Boy, au Théâtre Jean Vilar, dès le 24 septembre.
Podcast, la première.